Alors, pour ceux qui nous rendent visite occasionnellement, quelques petites précisions. Nous avons décidé d'aborder cette année les personnages bibliques, alors au choix de l'orateur, mais les personnages, alors avec une préoccupation, j'allais dire prioritaire, c'est d'en tirer les leçons. Je ne vais pas dire que j'en fais une obsession, mais l'aspect documentaire des textes bibliques n'a que très peu d'intérêt. La Bible dit d'elle-même qu'elle a été écrite pour notre instruction, c'est-à-dire pour nous apprendre des choses, pour nous faire grandir. Et donc, quel que soit le personnage, alors c'est parfois très direct et parfois un peu plus indirect, mais quel que soit le personnage que nous étudions les uns et les autres, c'est toujours dans le but, en tout cas moi j'ai ça très présent à l'esprit, d'en tirer un enseignement pour moi ou pour nous, individuellement ou collectivement ou les deux, parce que encore une fois, sinon c'est les belles histoires du Père Castor, et ça on n'a pas de temps à perdre le dimanche matin avec ça. Ça c'était la première précision. La deuxième précision, c'est que il m'a été suggéré de choisir comme personnage Ève, ce qui est quand même un sujet intéressant, et j'ai déjà fait une... Alors, je vais poser très directement la question, qui était là à Ève 1 Voilà. Donc, je ne vais évidemment pas répéter ce que j'ai dit. Alors, je reprends donc l'étude du personnage d'Ève, avec, et ça sera ma dernière précision... Le fait de dire que c'est une lecture commentée plus qu'une étude proprement dite, donc c'est moins structuré, c'est moins tout ce que vous voulez, et j'allais dire c'est plus sur le ton de la conversation, mais je pense que ça s'y prête bien, et donc évidemment, Ève, c'est la Genèse, et avant de relire le texte qui concerne Ève, avec ce que son histoire a à nous apprendre, une précision, je suis obligé là de redire ce que j'ai dit la dernière fois, mais ça me paraît important parce que sinon il y a deux contresens dans la lecture de ce texte dont il faut se prémunir, parce que alors ce sont des contresens communs, courants, et si vous tombez dans le piège, vous faites de Dieu soit un pervers, soit un fou furieux, soit les deux. Un pervers, pourquoi ? Parce que si on s'en tient au fait que, et je le disais la dernière fois, qu'il a mis à la portée de l'être humain des fruits dont on nous dit qu'ils avaient toutes les qualités, c'est-à-dire que on voyait, alors je sais pas comment on peut voir ça, mais le texte dit qu'on le voyait, que non seulement ils étaient agréables à regarder, bon ça effectivement ça se voit, on voyait qu'ils étaient bons à manger et on voyait qu'ils étaient intéressants pour la connaissance. Donc, si on s'en tient au fait que Dieu a mis ça à portée de main de l'homme, et encore une fois, pas dans un arbre qui faisait 50 mètres de haut, et qu'il lui a dit « tu ne touches pas », alors je prenais cet exemple idiot, mais quand même, c'est les parents qui posent le Nutella au milieu de la table du petit déjeuner, et qui ouvrent le pot, et qui disent à leurs enfants « l'huile de palme, c'est pas bon pour toi, donc tu ne touches pas ». Il faut être tordu. Si on voit Dieu comme ça, enfin, si on s'en tient là, Dieu est tordu. Or, ce que j'ai expliqué la dernière fois, et donc je vais faire ça très rapidement et je ne vais pas y revenir, c'est que cet arbre, pourquoi est-ce qu'il est là et pourquoi est-ce qu'il est interdit ? C'est parce que c'est la condition de la liberté de l'homme. Connaître le bien et le mal, c'est-à-dire déterminer son comportement, du coup, il y a deux sources possibles et pas une seule, parce que s'il n'y en a qu'une, c'est Dieu. Du coup, la relation avec Dieu, elle est contrainte. Elle est obligatoire. Si je ne sais pas quoi faire au quotidien, à l'instant, à la seconde, et que la seule possibilité pour savoir comment je vais me comporter, ça soit d'aller le demander à quelqu'un, ma relation avec ce quelqu'un, elle est contrainte. Elle n'est pas libre. Elle n'est pas choisie. Et moi, je suis, mais alors là, vous m'en ferez pas démordre, radicalement convaincu que la souveraineté de Dieu est parfaitement compatible avec la liberté de l'homme. Et on parlait du temps, alors je ne vais pas me lancer dans des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais l'explication c'est le temps, c'est que Dieu maîtrise le temps, donc il sait, Mais c'est pas parce que vous savez où va quelqu'un. C'est le problème de la route de montagne et de l'hélicoptère. Quand vous êtes au volant d'une voiture sur une route de montagne, vous savez pas ce qu'il y a après le virage. Celui qui est en hélicoptère au-dessus, il sait. Bon. Voilà. Dieu, c'est ça par rapport à nous. Mais pour autant, le fait de poser une alternative à la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire dire à l'homme, tu as le choix. Tu as le choix, donc tu es libre. C'est-à-dire que si tu veux savoir comment te comporter, soit tu viens vers moi et on en parle, et du coup la relation, elle existe, soit je mets à ta portée un autre moyen de savoir comment déterminer ton comportement. Sauf que cet autre moyen, c'est une alternative. C'est-à-dire que si tu choisis ça, tu perds la relation avec moi. Et la relation avec moi, c'est la source de la vie. Donc tu perds la vie, donc tu devras mourir. Mais, encore une fois, c'est la condition de la liberté de l'homme. Alors, c'est un débat qu'on pourrait avoir, ou enfin, qui n'a pas sa place ici. Mais moi, pour parler un peu de choses littéraires, moi je pense que c'est Calvin qui a fabriqué Sartre. Calvin qui n'est pas de mon avis et qui pense qu'on est totalement déterminé, prédestiné au sens où il l'entend, c'est-à-dire pas libre, on n'a pas le choix pour Calvin. Et donc, effectivement, si Calvin a raison, Sartre a raison aussi. C'est-à-dire que pour que l'homme soit libre, il faut qu'il soit sans Dieu. Moi, je pense qu'on peut être libre avec Dieu. Et ça, c'est déjà dans le récit de la création. On peut librement choisir la relation avec lui plutôt que pas. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une alternative. Donc c'est pas du tout tordu de sa part de mettre un arbre en disant « tu touches pas parce que sinon tu vas mourir ». C'est « je te rends libre par ce biais-là ». Il y a un détail qui m'a frappé par rapport, enfin là c'est une digression, mais par rapport à la liberté de l'homme. On aurait tendance à penser que... dit ça par rapport à la détermination, on aurait tendance à penser que, par exemple, quand Jésus dit à quelqu'un « suis-moi », il le fait. Ça a marché 12 fois. 12 fois, il a dit à un type « viens avec moi », et le type a tout planté, et il s'est levé, et il est parti. Bon. Donc on pourrait penser que ça marche à tous les coups, et que donc Dieu nous contraint. Sauf que, alors effectivement, Jésus n'a pas perdu son temps, parce qu'il n'avait pas de temps à perdre, n'a pas perdu son temps à aller dire « viens avec moi » à tous les gens, et ils étaient des milliers, et peut-être des dizaines ou des centaines de milliers, à dire « viens avec moi » à des gens qui auraient dit « ben non, pas envie, ou j'ai autre chose à faire ». Mais il l'a fait quand même une fois. Alors qu'il savait à chaque fois quelle serait la réponse, bien sûr. Quand il a demandé aux 12, il savait que c'était les 12 qui allaient lui dire oui. Mais il a demandé à un 13e, qu'on appelle dans la Bible « le jeune homme riche ». Pour montrer justement que il n'y a pas une espèce de contrainte mentale qui serait du coup extrêmement dangereuse pour l'être humain, de contrainte mentale, quand Jésus te dit viens, forcément tu dis oui. C'est même pas toi qui dis oui, c'est ta bouche. Tu t'entends dire oui. C'est pas comme ça que ça marche. On est libre. Et pour montrer à quel point on est libre de répondre ou pas à l'appel de Dieu, comme de choisir ou pas la relation avec lui pour la détermination de notre comportement, eh ben, il a mis des exemples où ça ne marche pas. Où librement, un homme dit non. Donc, ça c'est pour écarter la première objection. Le deuxième contresens, mais j'y viendrai tout à l'heure parce que c'est dans la suite du récit, le deuxième contresens, c'est que 900 ans de travaux forcés pour le vol d'un fruit, c'est de la folie furieuse, quand vous y réfléchissez. Il bouffe un fruit et il se ramasse comme peine 900 ans de travaux forcés, sans parler des générations suivantes. Donc moi, si c'est mon client, je lui dis de faire appel. Mais on y viendra tout à l'heure. Donc, je lis le texte, et on en parle. Donc j'ai été, sachez-le, mais comme d'habitude, assez long la dernière fois. Donc je ne reviens pas, en dehors de ce que je viens de faire, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit d'autre. Et donc, on attaque directement, bille en tête. Le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes des champs que le Seigneur avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, sur le milieu, je me suis expliqué, j'y reviens pas, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à regarder et précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Objectivement, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à cette brave femme ? Franchement. Alors évidemment, d'avoir fait le mauvais choix, mais ça on le sait après. Mais il y a son mari qui lui a dit, qui l'a entendu dire par Dieu ? Parce que Dieu parle à Adam au moment où Ève n'existe pas encore. Donc Adam répète à Ève la consigne de Dieu en disant, ça faut pas manger. Bon. Donc elle a entendu Adam lui dire, faut pas manger parce que sinon on va mourir. Et elle entend le serpent lui dire le contraire, c'est-à-dire « vous ne mourrez pas ». Alors, le serpent, parce que justement il est rusé, c'est un peu de vérité, un peu de mensonge. C'est « vous ne mourrez pas », ce qui n'est pas vrai. « Vous ne mourrez pas tout de suite », ce qui est vrai. « Vous serez comme des dieux quant à la connaissance du bien et du mal », c'est vrai puisque Dieu le confirme après. Alors, pas comme des dieux sur tous les plans, mais comme des dieux pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. Objectivement, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Deux sons de cloche différents ? Eh ben, elle applique sa raison à ce qu'elle a entendu et surtout à ce qu'elle voit, à ce qu'elle perçoit. Et donc, la perception, c'est beau, c'est bon, c'est utile. Et donc, son choix va du côté de ce que sa raison lui dicte. Moi, on me dit un truc, on me dit le contraire, j'applique ma raison. Et objectivement, qui peut me le reprocher ? Tout le problème est dans le « objectivement ». C'est ça qui pose problème. Le problème d'Ève, c'est d'être objective sur ce coup-là, et pas subjective. Qu'est-ce que Dieu attendait d'Ève ? C'est qu'il dise, non pas « qu'est-ce qu'on me dit de part et d'autre ?» mais « qui me le dit ?» Qui me le dit ? Parce que là, il n'y a pas photo. Parce que là, d'un côté, il y a une bestiole, bon, très bien, une créature qui ne m'a jamais rien prouvé de l'intérêt qu'elle me porte, qui ne m'a jamais prouvé, avant de m'adresser la parole, que ce qu'elle voit, c'est mon intérêt plus que le sien. Et puis de l'autre côté, il y a qui ? Il y a mon mari. Il y a celui qui a eu ce cri d'amour envers moi, en disant, ça y est, c'est celle-là. C'est mon mari, c'est mon époux. Et non seulement c'est mon époux, mais c'est mon époux qui m'a dit, voilà ce que Dieu, c'est-à-dire celui qui nous a créés, celui à qui nous devons, comme on dit en grec, la vie, le mouvement et l'être, voilà ce qu'il a dit. Le premier adultère de l'histoire, il n'est pas physique, il est intellectuel. Ève, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de tromper Adam et de tromper Dieu, parce que elle choisit quelqu'un qui ne lui a rien prouvé face à quelqu'un qui a non seulement pour elle un sentiment fort, puisqu'il l'a exprimé, mais qui en plus porte le message du Créateur. Je fais une parenthèse. J'ai eu le plaisir nous avons eu le plaisir de recevoir les ados. Oui. Réveille-toi, c'est pour toi. La problématique de l'adolescence, c'est ça. D'un côté, enfin, moi je l'ai vécu comme ça. D'un côté, vous avez le mec qui dit ah, je fais une soirée chez moi, tu vas voir, viens, on va s'éclater, super. Et puis de l'autre, vous avez les parents qui disent c'est pas une bonne idée d'y aller là. Ça, je le sens pas. Moi, ce mec, je suis pas sûr que tu sois en sécurité, surtout si tu es une fille. Bon, n'y va pas. Si on pose le problème objectivement, la parole de l'un, la parole de l'autre, deux sons de cloche contradictoires, exactement pareil, hein. Un qui dit vient, l'autre qui dit n'y va pas. Donc j'applique ma raison à ça. Je regarde et je vois qu'il y a du punch, c'est sympa, hein. Il y a de la bonne musique, on va s'éclater. Si on pose le problème comme ça, c'est mort, c'est mort. Il faut le poser autrement. Qui me dit quoi? Ce type qui ne m'a jamais prouvé qu'il faisait pas passer son intérêt avant le mien, ou bien mes parents qui, depuis des années, parfois des décennies, m'ont prouvé qu'ils m'aimaient, et qu'ils m'aimaient plus qu'eux. Donc là, il n'y a plus photo. Je te dirai combien tu me dois. Hein. Là, vous êtes en train de, je vois dans vos regards, vous êtes en train de vous dire ça, c'est beaucoup trop subtil pour qu'il l'ait trouvé tout seul. Bien sûr, bien sûr. J'ai emprunté ça à un théologien dont j'ai amené le bouquin, et donc je vais vous le lire. Un théologien assez connu d'ailleurs, qui a eu un petit succès à son époque. Donc c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 11. C'est Paul qui dit ça aux Corinthiens. J'éprouve à votre égard autant de jalousie que Dieu. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure, mais j'ai peur que, comme le serpent, vous voyez que c'est pas moi qui l'invente, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent loin de la simplicité due au Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, individuellement, le modèle que je donne a ses limites. Le modèle que je donne a ses limites, tout simplement, parce que on ne fera croire à aucune femme ici que ce que dit son mari, c'est tellement vrai que ça se discute pas. Parce que, évidemment, les hommes sont faillibles. Et quand on dit à sa femme « voilà ce qu'il faut faire », elle a le droit de dire « je suis pas d'accord », tout simplement parce que sa parole vaut la nôtre. Donc, effectivement, individuellement, le modèle a ses limites. Collectivement, et c'est ça qu'il faut tirer de... S'il y a une leçon à tirer pour nous de ce qui est arrivé à Ève, c'est ça, c'est que collectivement, on est une épouse. On est une épouse, comme Ève. Et comme Ève, on est l'épouse de quelqu'un qui nous a transmis la parole de Dieu. Collectivement, l'épouse, c'est l'épouse de qui? De Christ. Christ qui non seulement transmet comme Adam, mais qui est, EST, la parole de Dieu. Et donc, on a effectivement en permanence, collectivement, c'est-à-dire en tant qu'Église, un monde qui nous dit, mais c'est pas ça qu'il faut faire. On a deux sons de cloche, toujours. On a la parole, mais la parole vivante, la parole incarnée de Dieu, qui nous dit voilà dans quelle direction il faut aller, et puis on a le monde qui nous dit le contraire. Ne me dites pas que c'est pas vrai. On le vit au quotidien. Le monde nous dit le contraire, y compris pour ce qu'on a à vivre en tant qu'Église. La tentation, elle est là. Sinon, ce serait pas de la ruse. Alors, qui on va croire? On va appliquer notre raison à ça? Le monde nous dit ça? Dieu nous dit ça? Bon, bah, on va réfléchir, hein. Comme on est malin, bah, on va voir que ce que nous dit le monde, c'est beau, c'est bon, c'est agréable, c'est profitable. Blablabla. Ça y est, c'est trop. Ou alors, au lieu de dire quoi, on dit qui? Qui nous dit quoi? Le monde? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, le monde? Le monde, il a un prince qui nous combat quotidiennement, qui nous séduit quotidiennement. Et de l'autre côté, il y a qui? Pas il y a quoi, il y a qui? Il y a celui qui a donné sa vie pour nous et qui nous a donné la vie. Alors là, du coup, il n'y a plus photo. C'est pour ça que Paul dit... Moi, je vous ai fiancé au Christ. Je vous ai fiancé au Christ. Et donc, je ne veux pas que, comme Ève a été séduite par la ruse de Satan, vous soyez séduits collectivement en tant qu'Église et que vous soyez détournés de votre époux. Et c'est pour ça qu'après, il parle d'un autre évangile. Et là, il parle de la séduction, pas du monde par rapport à l'Église, dans l'Église. Parce que ce qu'il y a après, c'est effectivement... En effet, si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou bien si vous accueillez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. C'est la tentation d'Ève. C'est pour ça qu'il dit comme Ève a été séduite. Donc, la leçon que nous devons, enfin, que, pas être péremptoire, la leçon que je tire pour nous collectivement, c'est soyons subjectifs dans notre appréciation du bien et du mal, et pas objectifs. Allez, on continue parce que sinon... c'est quand même le mérite de la Bible, c'est qu'on pourrait se dire que, effectivement, se retrouver devant un arbre comme ça, avec un serpent qui nous parle, bon, ça ne nous arrive pas tous les jours. Donc, du coup, le modèle, il peut paraître lointain. Mais en fait, même là, dans une situation qui, pourtant, nous paraît tellement éloignée de nos représentations, comme on dirait, on a des exemples à suivre. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Gardez ça présent. Donc, en fait, le terme hébreu, c'est plutôt des ceintures. Enfin, il faut voir ça comme des ceintures. Hein. Enfin, en tout cas, clairement, je me suis expliqué la dernière fois, et j'y reviens pas, sur ce qu'impliquait le fait d'être sexué pour l'être humain. C'est ça qu'il s'agit de planquer. Hein. Bon. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin, au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » « Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que t'as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ?» L'homme répondit, et ça c'est tout le courage masculin qui est exprimé dans cette expression, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme « Qu'est-ce que t'as fait ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait ça, tu seras maudit entre toutes les bêtes de la terre et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te blessera à la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Il dit à la femme, « Je ferai en sorte qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras tes fils, ton cœur te poussera vers ton homme, et lui il te dominera. » Et il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie, il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, oui, de la poussière tu as été pris, et à la poussière tu retourneras. » Là, j'en viens à ce qui pourrait passer pour des sanctions et à la sévérité complètement folle de Dieu qui va condamner non seulement le coupable, mais aussi les générations suivantes. Non seulement la coupable, mais aussi les générations suivantes qui, a priori, n'ont rien à se reprocher. C'est quand même le même Dieu qui dira plus tard, il faut pas que vous ayez, qui dira aux Israélites, il faut pas que vous ayez ce dicton. C'est les pères qui ont mangé des raisins verts et c'est les dents des fils qui ont été cariées. Faut pas dire ça, dira Dieu, parce que c'est chacun paye pour lui. Et je ne suis pas un Dieu qui fait retomber sur les enfants les fautes des parents. Ah ouais? Et les travaux forcés à perpétuité alors? Et les douleurs de l'enfantement? Alors, il y a d'abord, je vais en prenant le moins de temps possible, essayer de vous démontrer qu'il n'y a aucune sanction là-dedans. Il n'y a aucune sanction. Sauf pour le serpent, à qui Dieu dit « tu vas ramper sur la terre ». Pour ce qui concerne le serpent, Dieu annonce, alors les théologiens appellent ça le proto-évangile, parce que Dieu annonce au serpent ce qui l'attend, en disant « la descendance... Il y aura une hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme. Tu lui blesseras le talon, elle t'écrasera la tête. Il annonce ce qui va se passer dans longtemps, 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 longtemps. Et un jour, il va montrer à un homme comme nous, étonnamment, il va montrer la scène, la réalisation de cette annonce. Encore une fois, c'est pas une sanction. C'est juste, Dieu lui dit, voilà ce qui va se passer. À cause de ce que tu as fait, à cause de la séduction des êtres humains, voilà ce qui t'attend. Et donc, l'homme qui va visionner la réalisation, c'est évidemment dans l'Apocalypse, Apocalypsis, ce qui veut dire dévoiler. C'est la même chose qu'en français, en grec, c'est enlever le voile, dévoiler, Apocalypsis. Bon. Celui qui va voir ça, pour qu'on comprenne bien que c'est bien de ça qu'il s'agit, parce que lui va voir le serpent sous la forme d'un dragon, c'est le terme qui est utilisé en grec, mais il va dire, le dragon dont j'ai vu le sort, c'est le serpent d'autrefois, celui qu'on appelle le diable et Satan. Et pour qu'on soit bien sûr que c'est du même épisode qu'il s'agit, il va écrire, Apocalypse 2, je vais regarder d'ailleurs, tu peux nous l'afficher peut-être Simon, Apocalypse 12, verset 1er. Il va traduire en grec l'expression hébraïque en disant, alors la scène commence, voilà. Il va traduire donc l'expression que Dieu utilise dans la Genèse. La femme criait parce qu'elle était dans les douleurs de l'enfantement. Ça s'ouvre comme ça pour montrer, alors pourquoi est-ce que on donne dans l'Apocalypse le détail d'une femme qui crie parce qu'elle est en train d'enfanter, parce que c'est ce que Dieu a annoncé à Ève. Et c'est ce que Dieu a annoncé pour sa descendance. Et donc, ce que Dieu annonce, c'est, je vous dis, les théologiens appellent ça le proto-évangile, parce que c'est déjà l'annonce de la victoire, de la descendance d'Ève. Il faut entendre par là le Christ, sur le serpent, il faut entendre par là le diable. Et donc, il faut lire la suite à la lumière de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui peut passer comme une punition, et si ça passe comme une punition, si c'est un jugement, c'est complètement délirant. T'as bouffé un fruit, tu vas te prendre, parce que 930 ans, et à cette époque-là, il doit avoir à peu près la trentaine, donc vous imaginez, tu vas devoir bosser pour te nourrir, c'est pas 166 trimestres, hein, pour arriver à la retraite. C'est beaucoup plus que ça. Et les générations suivantes aussi. Et la femme, puisque t'as là, hop, ça va faire mal. Alors, comprenons-nous bien, et ça me paraît important ce que je vais dire, en toute modestie. Dieu va dire, voilà, j'avais pas l'intention de te le dire maintenant, de vous le dire maintenant, mais je vous ai fait le plus beau des cadeaux. Malheureusement, vous l'avez abîmé, le plus beau des cadeaux. Et en même temps que je vous annonce le plus beau des cadeaux, je suis obligé de vous dire les conséquences que ça a de l'avoir abîmé. C'est ça le sens du texte. Je vous ai fait le plus beau des cadeaux parce que, souvenez-vous, je vous ai fait à mon image, à ma ressemblance. Et c'est pas des mots. Je vous ai donné des capacités qui, pourtant, n'appartiennent qu'à moi. Moi, dit Dieu, je suis capable, j'ai été capable de planter un jardin. J'ai été capable de faire pousser du sol des choses qui nourrissent l'humanité. Eh ben, je vous fais à vous les hommes, et pas aux animaux, hein, à vous les hommes, ce cadeau inouï de pouvoir en faire autant, c'est-à-dire de pouvoir faire pousser du sol des choses qui vous nourrissent. C'est l'apanage de Dieu. Eh ben ça, je vous en fais cadeau. Ça, c'est cadeau. C'est cadeau, mais puisque vous venez d'abîmer l'image de Dieu que vous êtes, puisque vous avez rompu la relation, alors cette image de Dieu, cette projection de Dieu que vous étiez parfaitement jusqu'à maintenant, alors, c'est là que c'est aussi un beau cadeau. Dieu aurait pu dire, puisque c'est comme ça, terminé, donc dehors du jardin, incapable de faire pousser quoi que ce soit, et puis incapable de se reproduire. Comme ça, l'affaire est pliée. Donc vous finissez votre vie de merde, vous mourrez, et on n'en parle plus. et on recommencera peut-être quand les choses se seront calmées. Dieu pardonne. Et Dieu dit, à cause de ce que vous avez fait, c'est pas moi qui vous punis, c'est vous qui vous faites mal tout seul, à cause de ce que tu as fait, Adam. Être comme un Dieu, c'est-à-dire être capable de faire pousser des choses du sol pour nourrir l'humanité, ça va te faire mal, forcément, parce que t'as abîmé l'image de Dieu. Et toi, Ève, je t'ai fait un cadeau peut-être encore plus grand. J'ai créé, moi, Dieu, qui suis seul capable de le faire. J'ai créé un être humain. Eh ben, je t'ai rendu capable d'en faire autant. Eh ben, ça aussi, c'est l'image de Dieu. Et puisque tu l'as abîmé, alors je ne te retire pas cette capacité, je ne te rends pas stérile, je pourrais, hein, parce que ça serait largement mérité. Plus de relation avec moi. Quel intérêt tu présentes? Quel intérêt vous présentez tous les deux? Misérable couple que je me suis donné la peine de créer. Je t'enlève pas ce cadeau, je te fais grâce. Mais parce que t'as abîmé mon cadeau, ça va faire mal de me ressembler. J'ai créé, oui, tu vas procréer quand même, malgré tout, parce que je suis un Dieu de grâce, mais dans la douleur. Alors vous me direz, ouais, ça veut rien dire ce que tu racontes, et les animaux aussi se reproduisent. Ouais, non, attendez. La différence entre eux, et c'est l'intérêt des deux tablettes. J'ai dit que l'autre jour, on comprenait une tablette grâce à l'autre, et réciproquement. L'être humain n'est pas un être vivant comme les autres. On l'a vu à la création. Il a créé les animaux. Il leur a donné, c'est vrai, la faculté de se reproduire. C'est pas l'apanage de l'homme. C'est entendu. Mais il a soufflé dans l'être humain, et ça, il l'a pas fait aux animaux, pour leur donner une âme. Et le texte hébreu dit, et il devient une âme vivante. Et la capacité et donner une âme, ça, il y a que Dieu qui peut le faire. Eh ben non. Les descendants d'Ève auront aussi une âme. Ce ne seront pas des animaux. Dieu a fait ce cadeau inouï à Ève de lui dire « tu vas ». D'ailleurs, la preuve que c'est pas de la reproduction animale, c'est que, un peu plus loin, quand ils vont se reproduire, qu'est-ce qu'elle va dire à Ève ? J'ai fait un enfant avec Adam. J'ai procréé un enfant avec le Seigneur. J'ai fait un enfant avec le Seigneur, c'est-à-dire avec la capacité que le Seigneur m'a donnée d'en faire moi aussi une âme vivante. Et donc, alors que ça paraît une punition démente, en fait c'est un cadeau inouï. Parce que, alors Dieu est obligé à rien, mais il est amené par la faute des hommes à leur dire, en même temps, voilà le cadeau inouï que je t'ai fait, que je vous ai fait. Et voilà en même temps les conséquences inévitables, mais à cause de vous, pas à cause de moi, les conséquences inévitables du fait que vous l'ayez abîmé, ce cadeau. Vous avez abîmé l'image de moi que vous êtes. Donc maintenant, tout ce que vous ferez en tant qu'image de moi, ça sera douloureux. Douloureux parce que quand on est une image détériorée de Dieu, effectivement, même s'il nous le fait la, et ça on le vit au quotidien, même s'il nous fait la grâce de continuer à être à son image, c'est douloureux d'être comme lui et de se servir de la grâce qu'il nous fait, soit pour faire pousser des choses de la terre, comme lui a su le faire en plantant le jardin, soit pour procréer un être humain comme il a créé. Et donc ça fait mal. C'est pas une punition. C'est la moindre des conséquences possibles, parce qu'il aurait pu sanctionner s'il n'avait été que juste. Et déjà là, il montre à quel point son amour est plus grand que sa justice. Enfin, je pensais important de le dire quand même. Après, l'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des vêtements de peau dont il les revêtit. Vous vous souvenez que eux s'étaient fait des pagnes et Dieu leur fait des vêtements. Alors là, il faut avoir suivi ce que j'ai dit la fois d'avant par rapport à la nudité, c'est-à-dire au caractère sexué. Ce qui nous rend imparfaits, au départ, c'est le caractère sexué. Donc s'il faut cacher quelque chose aux yeux de Dieu et aux yeux les uns des autres, c'est le sexe. On n'en est plus là maintenant. Vos petits pagnes là, vos caches-sexes, c'est le cas de le dire, c'est bien sympa. Mais ça règle pas le problème. Le problème, c'est que maintenant, tout votre être, en tant qu'image de Dieu, est altéré. Donc s'il faut planquer quelque chose aux yeux de Dieu et aux yeux les uns des autres, pour marquer l'imperfection, c'est de la tête aux pieds. Hein. Et donc là, Dieu parle de vêtements, c'est-à-dire de vêtements qui couvrent le corps. C'est pour ça que Dieu remplace, c'est pas parce qu'il aime pas les feuilles, il trouve que c'est pas à la mode, c'est pas du tout un défilé de mode, en disant il fait frais, donc on va leur mettre une petite laine. Non, il faut masquer l'imperfection. L'imperfection, elle n'est plus que dans le caractère sexué, elle est dans la totalité de l'individu. Et Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, le serpent n'avait pas tout à fait, ne mentait pas complètement. Maintenant, qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie et en manger et vivre à jamais, le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée poudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme connut, m'éclate ce verbe, l'homme connut Ève, sa femme, elle devint... inutile de vous dire que l'hébreu est plus... Alors on n'a pas... les verbes qu'on a en français sont soit vulgaires, soit compliqués, fait l'amour avec, machin... soit il faut une expression, soit on tombe dans la vulgarité, ce que je ne ferai pas. Le sens, alors on sait dans quel sens le verbe connaître est employé là. Sachez-le quand même, et on s'arrêtera pas là-dessus. L'hébreu emploie le verbe pénétrer, parce qu'il n'y a pas derrière ça toute la poésie qu'on y met. Il s'est évité le restaurant avant. Donc l'homme connut sa femme, elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur », c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je termine en disant quelque chose dont j'ai déjà parlé, je me souviens, c'était au premier week-end qu'on a fait au Black Oas. Sans encore une fois entrer dans des détails un peu sordides, vous conviendrez avec moi que pour faire ce dont il est parlé là... faut pas se haïr complètement. C'est plus compliqué quand on est en train de se haïr. Or, ils se sont donnés mutuellement de bonnes raisons de se haïr. Disons de se détester, mais de se détester copieusement. Parce que vous avez retenu que Ève a pris le fruit en présence d'Adam, qui n'a pas mouveté, qui non seulement ne lui a rien dit quand elle a croqué dedans, mais en a mangé quand elle lui a donné. Donc, pour quelqu'un qui avait reçu la consigne de Dieu et qui n'avait fait que la transmettre, d'ailleurs imparfaitement, puisqu'il ne s'était pas compris sur où était le milieu, bref, peu importe, je ne reviens pas là-dessus. Mais, Ève, elle a de bonnes raisons d'en vouloir à Adam, parce que toutes les douleurs d'Ève pendant les accouchements, Ève et ses filles, et toute sa descendance, merci Adam, hein. T'aurais tenu ton rôle, on n'en serait pas là. Et puis alors Adam, lui, j'aurais pu vivre dans une chaise longue au milieu du jardin, à juste attendre que les fruits tombent pour les manger, et au lieu de ça, je suis au boulot toute l'année, tous les jours, pendant les 930 ans de ma... Enfin, ce qui reste de mes 930 ans de vie, merci Bobonne. Tu peux pas te tenir tranquille un peu ? Enfin, je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais il y a de quoi se haïr. Il y a de quoi en tout cas se détester. Et il y a de quoi, en tout cas, penser que, tout simplement, l'autre, c'était pas une bonne idée. C'est ce qu'exprime, sans trop en rajouter, parce qu'il est quand même en dialogue avec Dieu, mais c'est ce qu'exprime Adam quand il dit « La femme que tu m'as donnée, la femme que tu as mise auprès de moi, m'en a donnée et j'en ai mangé. » Il y a derrière cette formulation une façon de dire « C'était pas une bonne idée de me coller ce bipède. Finalement, je m'en serais mieux sorti tout seul. » Et Ève a la même raison, pour des raisons différentes, mais Ève peut penser exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que, mais ça je l'avais souligné, le projet de Dieu, remplissez la terre, multipliez-vous et remplissez la terre. Le projet de Dieu ne se conçoit, la réalisation du projet de Dieu ne se conçoit que dans l'altérité. Adam peut toujours se dire, s'il y avait eu que des Adam, ça serait mieux passé. Ou Ève peut toujours se dire la même chose, s'il y avait eu que des Ève, ça serait mieux passé. Non, ça serait pas mieux passé, parce que ce pourquoi on est là ne se serait pas produit. Remplir la terre. Donc ça nécessite d'accepter l'altérité, malgré que l'autre, pour le coup, il est autre. Parce que effectivement, Ève se dit, moi si j'avais été Adam, je leur ai ouvert ma grande bouche au moment où j'ai cueilli le fruit. Ils se testent en douille. Et l'autre pareil, si j'avais été Ève, ben je me serais tenu tranquille. Fais autre chose, je sais pas. Apprends à tricoter, mais va pas cueillir des fruits alors qu'on t'a rien demandé. S'il y avait eu que des Adam, on n'en serait pas là. On serait pas obligé de bosser en plus. Je dis ça très sérieusement. Aujourd'hui, le projet de Dieu, pour nous, en tant qu'épouse, c'est l'Église. L'Église qu'il se prépare, enfin, qu'il veut sans tâche, parfaite, pour le jour de son avènement. Si on n'accepte pas que ce projet-là, il ne peut se réaliser que dans l'altérité, c'est-à-dire si je pars du principe que s'il y avait que des gens comme moi dans l'Église, ce serait quand même plus cool, hein. Je ne serais pas obligé de vous supporter, et réciproquement, bien sûr. Ça marche d'ailleurs même mieux dans l'autre sens. Si vous n'étiez pas obligé de me supporter, et si vous étiez tous comme vous, ça irait plus vite, non. Le projet de Dieu, il ne se réalise que dans l'altérité. C'est-à-dire si l'autre est autre. Si l'autre, et je vais plus loin, si l'autre perd pied, là où moi je n'aurais pas perdu pied. Mais moi, je vais perdre pied sur un autre terrain, là où lui ou elle serait resté droit dans ses bottes. On n'a pas les mêmes failles, on n'a pas les mêmes faiblesses. Dieu a choisi que ce soit comme ça. Et son projet ne peut se réaliser que dans l'altérité. Non seulement ça, et j'en terminerai par là, non seulement ça, mais pour réaliser ensemble le projet de Dieu, je ne vais pas dire faut coucher ensemble, non. Mais l'image est là, il faut se pardonner. Il faut se pardonner et il faut s'aimer. En français, on dit faire l'amour. Bon, là, encore une fois, c'est pas le... En hébreu, ça... Mais ça souligne bien, enfin, c'est pas complètement absurde comme expression, ça souligne bien qu'il faut, autre chose, enfin, il faut le contraire des sentiments d'hostilité, sinon ça ne marche pas, tout simplement. Ça ne marche pas si on se déteste ou si on se hait. Il faut s'aimer et donc se pardonner, parce que du coup, il y a un sacré passif. Et donc, le projet de Dieu qu'est l'Église, et c'est aussi la leçon de l'aventure arrivée à notre mère à tous, c'est que nous avons non seulement à accepter l'altérité, mais nous avons à nous pardonner, j'ose dire, d'être ce que nous sommes. Il faut que tu me pardonnes, Tahar, parce que là où toi, t'aurais pas chuté, moi j'ai chuté, moi je vais chuter. Donc pardonne-moi. Et, ouais, voilà. Mais Dieu nous fait grâce. Et le fait que, c'est l'annonce de ce qui va se passer des milliers d'années plus tard, le fait qu'ils disent, malgré ce que vous êtes, Mon projet, je le maintiens. Bon, déjà. Mais je le maintiens avec vous et par vous. C'est vous qui allez réaliser mon projet comme je vous ai appelé à le faire, malgré ce que vous êtes, malgré ce que vous me faites, malgré toutes les raisons que j'ai de vous pulvériser. Il nous fait grâce. Et il nous dit, vous allez quand même, malgré vos tares, être capable de faire pousser des arbres, de faire pousser des plantes, de faire pousser des légumes. Vous allez quand même être capable, même si ça fait un peu mal, de donner la vie à la condition que vous vous acceptiez et que vous vous pardonniez les uns aux autres d'être ce que vous êtes, comme moi je vous ai pardonné. Merci Ève.